Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure du journal régional présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Evan, bonjour à tous.
Au sommaire des infos de ce mercredi 3 janvier, la suite de notre rétro de l'année passée. En février dernier, un candidat nommé Emmanuel Macron vient à Fort-Calquier soutenir un fidèle parmi les fidèles, Christophe Castaner. Nous entendrons le candidat devenu président évoquer son destin et le futur patron de son futur parti politique. À l'université d'été d'Utopia, sur la Côte d'Azur, Charlotte Marchandise a parlé de démocratie participative au micro de Véronique Herman. À Champtercier, les bénévoles dinois soutiennent les migrants. Odile Prison les a interviewés. Laboratoire d'innovation économique, le FABALP, recevait la visite de Lévis en juillet dernier. Enfin, sa venue en mars sur le rallye de Haute-Provence restera un événement marquant. Nous entendrons Sébastien Loeb en fin de journal. En février dernier, le futur président de la République était dans le 04.
Simple candidat et pas encore élu, Emmanuel Macron est venu apporter son soutien à un de ses principaux lieutenants, et ce, dans sa ville de Fort-Calquier. À l'époque, Christophe Castaner en était encore maire et se présentait aux élections législatives. Quelques mois après, ce sont un président et un ministre, puis un chef de parti qui prendront les manettes de la France. On verra moins Christophe Castaner à Fort-Calquier, mais bien plus sur les chaînes nationales où sa notoriété s'affirmait. Beaucoup le découvraient à cette occasion. En février donc, les deux candidats étaient en meeting à Fort-Calquier. Emmanuel Macron a répondu à mes questions, où bien sûr j'ai mentionné Christophe Castaner. Juste une précision, il venait d'évoquer la colonisation et d'en marquer des aspects confinants à des crimes contre l'humanité. Le président Macron a répété cet argument en décembre dernier lors de sa visite officielle en Algérie.
Emmanuel Macron était à Fort-Calquier vendredi.
L'homme est intelligent, c'est sûr, séducteur, évidemment, mais il est aussi un excellent communicant. Emmanuel Macron était en tournée dans le sud de la France, Toulon, Carpentras et plus près de nous, Manosque, et bien sûr, Fort-Calquier, sur les terres du député-maire Christophe Castaner, un de ses premiers soutiens pour l'élection présidentielle. Accompagné de son épouse Brigitte Trogneux et d'un staff logistique impressionnant, Emmanuel Macron a participé à une soirée privée, mais cependant ouverte à la presse. Dans la salle, plus de 200 militants de son mouvement En Marche, tous enamourés face aux prétendants à la charge suprême. Des personnes plutôt classées à gauche, socialistes déçus ou sympathisants de la société civile, également des responsables du monde de l'entreprise, là on est plutôt à droite, et des élus, maires et conseillers départementaux venus converser avec le candidat. Emmanuel Macron s'est volontiers prêté au jeu des selfies et il a dédicacé son dernier ouvrage à nombre de supporters. Auparavant présenté par Christophe Castaner, il s'est adressé sans détour ni note à l'Assemblée, de quoi galvaniser ses marcheurs. Je vous propose dans un premier temps d'écouter une partie de son intervention. Il évoque son mouvement et ses convictions. Emmanuel Macron.
De cette aventure, le début d'une aventure politique où nous avons décidé d'essayer de regarder la réalité de notre pays en face était le seul moyen de le faire avancer. Alors parfois ça contrarie, parfois ça choque, parfois ça coince, mais dire les choses, les regarder avec du respect pour celles et ceux à qui l'on parle, mais de l'exigence pour chacun d'entre nous, c'est la condition de départ. Et c'est ce qui nous a fait démarrer En Marche. Cette volonté d'en finir avec les postures politiques, politiciennes, diraient certains, de ne plus s'arrêter à des lignes maginot qui font que parce qu'on est né quelque part ou qu'on est estampillé d'un camp, on ne peut pas travailler ou avancer avec l'autre. On pense forcément telle ou telle chose, qu'on n'a pas le droit de dire telle ou telle chose, de changer le quotidien. Et depuis avril 2016, ce que nous avons fait, c'est de commencer une transformation en profondeur de notre vie politique pour pouvoir changer. Et donc ce que nous avons fait, c'est aussi ce travail de passeur, de dire des choses qu'on n'était plus habitué à dire, de rouvrir des sujets, de proposer des solutions.
Et après son discours, je vous signale que vous pouvez l'écouter sur notre site internet en intégralité. Emmanuel Macron a tenu un point presse plutôt intense, l'occasion de le questionner sur la personnalité de Christophe Castaner et aussi sur ses motivations personnelles, mais d'abord ses explications sur le sujet du moment relatif à ses déclarations sur la colonisation. Emmanuel Macron.
Il y a plusieurs sujets sur lesquels il y a aujourd'hui des fractions dans la société, les sujets sociétaux, le mariage pour tous, les sujets de colonisation, où vous avez une vraie fracture entre celles et ceux que je respecte hein, et auxquels j'adresse un message d'amitié, qui sont les pieds noirs, les harkis, nos soldats, qui ont pu parfois, pour certains l'ont très bien compris, d'autres se sont sentis blessés par ce que j'ai dit. Mais parce qu'en même temps, il y a les franco-algériens, les Algériens naturalisés, les fils et filles d'Algériens aujourd'hui français, qui ont vécu l'autre versant et qui ont vécu en effet la colonisation avec ses brutalités. Et donc, je dis dans cette histoire traumatique, nous devons réconcilier les mémoires et les histoires. Et donc, nommer chacun, c'est pas parce qu'on nomme sa responsabilité sur un des aspects de l'histoire et qu'on reconnaît la souffrance des uns, qu'on minore celle des autres. Et la France, sur ce sujet, eh bien, s'est repliée, elle est dans le refoulé depuis la fin de la guerre d'Algérie. Elle ne veut plus nommer les choses. Et chacun s'est mis derrière ses barricades. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Et c'est ce qui fait que vous avez de la violence, qui a d'ailleurs partie du Front National qui s'est nourri de cela, il faut bien le dire, surtout dans la région, qui s'est nourri de ce ressentiment contre une France qui avait abandonné ou trahi, y compris le général de Gaulle, hein, quand vous lisez bien les discours de certains. Et de l'autre côté, que vous avez dans nos quartiers, eh bien une France qui, elle, se vit comme étant encore traumatisée par un post-colonialisme et qui continue à vivre dans une forme de culpabilité. Moi, je ne suis ni dans la repentance, ni dans le refoulé. Je dis, il faut nommer ces histoires. Dire quelles sont toutes ces mémoires, ces expériences multiples, ben pour les réconcilier, parce que le travail de deuil, le travail d'apaisement, il se fait dans le dialogue, il se fait dans la reconnaissance. Vous avez vu comme c'est dur, hein ? Vous avez vu comme c'est violent, mais il faut l'affronter, parce que moi je veux construire, et je veux construire de l'apaisement.
Emmanuel Macron, qui est Christophe Castaner pour vous ?
Ben Christophe Castaner, c'est d'abord un ami. Il est devenu un généreux que je connais, qui aime son territoire, qui aime sa ville et qui en même temps aime son pays. En même temps, c'est un compagnon de route, un militant en même temps qu'un grand élu qui, depuis le début, suit avec moi les grandes causes que nous défendons. Il était rapporteur de la loi Croissance et Activité à l'Assemblée nationale. Et du premier jour, il a eu le courage de s'embarquer dans cette aventure qui connaît des ralliements aujourd'hui. Je m'en félicite, mais vous savez, au début, il en fallait quelques-uns pour y croire, pour y tenir. Et il en était des premiers. Et ça, je ne l'oublie pas. Et je le sais. Parce qu'il a pris son risque, lui aussi. Il a pris son risque alors même qu'il avait des pressions, alors même qu'il était déjà élu de la République et qu'il aurait pu rester dans un parti avec ses habitudes. Parce qu'il a pensé qu'il fallait changer les choses. Et donc, c'est à la fois cette fidélité à sa terre, à Fort-Calquier, à son pays, à ses idées et ses valeurs, et en même temps cette capacité à prendre des risques que j'aime chez lui et qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui dans cette bataille politique.
Vous ne vous êtes jamais présenté à une élection quelle qu'elle soit et vous prétendez au poste suprême de la République. C'est pas un sacré danger, ça ?
Mais écoutez, c'est toujours mieux de se présenter aux élections qui correspondent au poste que vous voulez exercer, à la mission que vous recherchez. Donc celles et ceux qui se présentent dans une ville ou dans une élection législative ou dans une région en pensant tout de suite à l'élection d'après, et on en connaît, on peut en citer, ça c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'ils vont pas s'occuper de ce dont ils prétendent s'occuper, qu'ils ont déjà la tête ailleurs. Moi j'ai toujours eu la tête à ce que je faisais, quand j'ai été dans le secteur privé, quand j'ai été conseiller, quand j'ai été ministre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai démissionné et qu'aujourd'hui, dans tout le champ politique, si vous prenez tous mes compétiteurs, vous n'avez que des gens qui sont payés pour faire autre chose qu'une campagne présidentielle. Ils sont tous payés pour être députés ou députés européens. Moi, j'ai démissionné parce que je me donne à fond dans ce que je fais. Et donc, oui, comme j'aspire à être président de la République, le mieux, c'est de se présenter à l'élection présidentielle. C'est plus cohérent.
Charlotte Marchandise a évoqué la démocratie participative.
Élue locale à Rennes, elle prône une autre forme de gouvernance et elle a remporté la première primaire en ligne de notre histoire. Elle n'aura malheureusement pas le nombre de signatures d'élus requis pour être candidate à la présidence de la République, mais sa présence a porté une lumière différente sur le fonctionnement de nos institutions. Charlotte Marchandise participait cet été aux universités d'été du mouvement Utopia. C'est dans ce cadre que Véronique Herman l'a interviewée.
L'université d'été Utopia s'est penchée sur la démocratie.
Théodore Monod disait « L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais le non réalisé ». Cette jolie phrase est la devise du mouvement Utopia, dont l'université d'été s'est déroulée à Mandelieu-Nanapoule. Dans une série de 3 reportages réalisés pour Fréquence Mistral, la première partie porte sur Charlotte Marchandise, maire adjointe de la ville de Rennes. Le 31 décembre 2016, elle remporte le second tour de la primaire.org, la première primaire citoyenne en ligne. Cependant, elle n'obtiendra pas le nombre de signatures nécessaires pour se présenter aux élections présidentielles. Dans ce reportage, dont une version complète est disponible sur Fréquence Mistral Castellane, Charlotte Marchandise évoque sa représentation de la démocratie actuelle et une vision plus participative au micro de Véronique Herman.
Charlotte Marchandise, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de l'ombre pour vous présenter aux présidentielles ?
Ce qui m'a poussé pour les présidentielles, c'est le fait d'être impliquée dans la politique locale depuis 3 ans en tant que citoyenne et de constater qu'il est possible de faire de la politique sans appartenir à un parti, ce qui pour moi était impossible. Et d'autre part, c'est aussi mon engagement féministe, puisque la primaire.org me paraissait un projet plein de futur et vraiment intéressant. Mais il y avait 200 hommes et 8 femmes dans les candidats en ligne. Et le déclencheur vraiment de m'inscrire a été de dire « je dois prendre mes responsabilités pour que des citoyens qui ont bossé, qui sont pas dans les partis, s'impliquent dans les politiques et pour que parmi ces citoyens, il y ait beaucoup de citoyennes ».
Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ?
Je retire d'une part qu'on n'était pas assez dans l'agenda et même si j'avais commencé à le soulever aux personnes de la primaire.org, si on veut hacker le système, faut connaître le système. Et donc 2 mois pour trouver les parrainages, c'était beaucoup trop court. Et même si on l'avait dit, on dit « ah mais non, ça va vite ». Non, ça va pas vite, les élus locaux ont besoin de temps et on avait besoin de ce temps-là. D'autre part, c'était important pour nous d'appliquer nos principes de gouvernance partagée dans la campagne électorale. À un moment donné, ça aurait été peut-être un peu plus pertinent d'avoir une directrice ou un directeur de campagne qui connaissait mieux les mécanismes internes, qui aurait permis par exemple de faire un 20h et ça aurait changé les choses. Parce que médiatiquement, on n'a pas été assez existants. Alors il y a plein de journalistes qui se sont battus pour parler de nous et c'était important et c'est vraiment pas une critique du journalisme en général, sauf qu'il nous a manqué un grand média national à un moment donné et avec toute la bonne volonté et toutes les compétences qu'on avait, ça demandait des compétences spécifiques politiques. À part ça, moi j'en retiens aussi les milliers de rencontres incroyables, le fait de faire le tour de France et de changer le regard sur la politique et tous les gens qui sont impliqués pour la première fois dans leur vie, tous ces gens qui ont dit « bah tiens, ça me donne envie d'y aller ». Finalement, ça peut être beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je me sens compétent pour y aller parce que tu m'as transmis ça et c'est sans doute ce qui en valait la peine.
Qu'est-ce que la Civic Tech a apporté en fait ?
La primaire.org, elle a ouvert une brèche, elle a mis en place des nouvelles technologies. C'est la première fois qu'on votait en blockchain, donc dans quelque chose de sécurisé où la sécurité n'est pas sur un serveur central mais bien dispersée chez les personnes. C'était la première fois qu'on votait au jugement majoritaire, donc on votait pas pour une personne, on évaluait l'ensemble des candidats. Donc des petites révolutions. On a eu 30 000 votants, c'est quasiment 2 fois plus que LV. C'était une vraie brèche, une vraie ouverture, une fissure dans un système très certainement à bout de souffle. Est-ce que c'est la primaire.org qui va être là la prochaine fois ou est-ce que c'est d'autres mécanismes de ce qu'on appelle la civic tech, donc les technologies autour de la démocratie, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça donne envie de multiplier les expérimentations et de dire on essaye et la technologie doit être au service de l'usage citoyen et non l'inverse.
Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous impliquez?
Alors, je suis toujours maire adjointe à la ville de Rennes en tant que citoyenne et j'aimerais bien qu'on tire collectivement le bilan des législatives avec énormément d'abstention, avec un échec très cuisant pour, on va dire, la gauche progressiste en général, mais comme sur la présidentielle, parce qu'il n'y a pas d'union, parce que le projet plus global qui rassemblerait, il me semble, qui est la constituante, qui est de repenser, qui est de sortir de la pyramide présidentielle qu'on a, n'a pas été suffisant pour que on se débarrasse des égos des partis. Donc je continue à être adjointe à la ville de Rennes et à mettre en place des processus participatifs citoyens et d'éducation populaire dans mon mandat. Je suis présidente d'un réseau d'élus, tous les uns et les autres, les adjoints à la santé de 90 villes en France. On est tous en réflexion sur notre posture, sur notre place d'élus, sur quel sens on y met et comment on fait en vrai pour améliorer la santé des habitants et faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades. Puis à ce titre-là, j'interviens aussi au niveau européen. Donc ça nous permet de voir trois niveaux, local, national et municipal. Et ensuite, mon autre engagement, c'est de continuer à partager ma vie d'élu comme je le fais depuis le départ et à transmettre tout ce que j'ai pu acquérir pendant ce temps pour les suivants qui voudront aller au municipal et dire voilà comment ça se passe, voilà ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, voilà les questions qu'on se pose, les limites où on essaye parfois que les gens participent, ils participent pas. On met tout ça au pot commun pour que les mouvements en commun se le réapproprient, en fassent quelque chose de nouveau et s'en emparent. Donc c'est aussi être vraiment au service de ce nouveau mouvement politique citoyen qui émerge.
Comment trouvez-vous les nouvelles réformes du gouvernement actuel?
J'ai même pas envie. Voilà, je suis sans mots. Je suis sans mots parce que quelqu'un qui s'est prétendu pragmatique, qui s'est prétendu dans une nouvelle forme d'approche politique, et c'est là-dessus qu'il a été élu, et on a partagé, on nous a dit, avec des mouvements citoyens comme la Belle Démocratie, qu'on avait beaucoup de choses en commun avec la démarche d'Emmanuel Macron, on était d'accord sur plein de constats, sauf que les solutions, c'est pas du tout les mêmes. Donner plus aux riches et enlever aux pauvres, c'est globalement ce que je retiens des réformes, hein, si je devais les résumer. Et c'est pas mon projet de société. C'est pas mon projet de société. Et surtout, pour les riches, c'est pas bon. On sait aujourd'hui qu'une société avec énormément d'écart entre les plus pauvres et les plus riches, c'est aussi négatif pour les riches, y compris sur leur santé mentale, sur leur santé physique. C'est pas gagnant-gagnant. Y compris au-delà du politique et de l'idéologie, y compris pragmatiquement, ça marche pas. J'ai du mal à comprendre, mais j'ai aussi du mal à comprendre qu'on n'ait pas été plus fort pour lutter contre ça. Et j'ai aussi du mal à comprendre que on se retrouve à nouveau dans la rue à débattre de si la rue a du pouvoir ou pas, alors qu'en fait, on devrait tous être en train de réfléchir à la nouvelle constitution. Et c'est surtout ça. Et moi, je suis très agacée parce que on s'est planté collectivement en ne mettant pas l'intérêt général en premier. Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand la démocratie se limite à l'exercice du vote tous les 5 ans? Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand, de toute façon, on peut faire des promesses qui ne sont pas tenues? Ou quand un président dit « mon ennemi, c'est la finance » et on l'élit là-dessus et il faut pas du tout ça? Quand un président dit à l'ONU « je vais sauver les réfugiés » et dire que « make the planet great again » et derrière, je fais du glyphosate et j'enlève les soutiens aux agricultures bio et j'empêche les réfugiés d'avoir accès à l'eau? À quel moment on recrée de la confiance? Et la démocratie, il y a quand même une base, c'est la confiance et la transparence. Quand on veut pas s'attaquer directement à ces questions-là, sans dire ils sont tous pourris, mais vraiment mettre en place des garde-fous et des systèmes contre la corruption. Et ça, Emmanuel Macron s'y était engagé. C'était un vrai beau projet, on le voit pas. De dire, ben voilà, on va vous donner une feuille de route concrète. Voilà ce qu'on va faire, en combien de temps et comment on va le faire avec. La démocratie est pas là. Alors, 24% des gens qui votent, c'est la conséquence de toutes ces promesses reniées tout au long de ces années. Il y a les grandes promesses et puis il y a toutes les petites corruptions que les gens voient au niveau local, toutes les petites trahisons permanentes sous prétexte de réel politique. J'ai le sentiment, et c'est aussi pour ça que je me suis engagée en politique, qu'on a oublié d'avoir une vision et que la politique est devenue technocratique à un moment où en fait la politique elle devrait entraîner les gens vers un projet de société plus beau, plus fort, plus porteur. Et donc effectivement on fait des promesses où tout le monde accepte, y compris parfois même dans la presse, de façon publique, qu'elles ne seront pas tenues. Et c'est dramatique.
Quelle est votre projection de l'avenir?
Je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste sur l'avenir immédiat. Je suis beaucoup tous les mouvements autour de l'effondrement, notamment le travail du collapsologue Pablo Servigne et des autres. Je pense qu'on va vers une série d'effondrements écologiques, climatiques, de santé des populations. C'est mon sujet. Les maladies chroniques, la pollution, le tabac, l'alcool va faire que nos systèmes de santé vont s'écrouler parce qu'on va pas pouvoir tenir ça. Économiquement, le pétrole, enfin voilà, on va avoir des effondrements et je suis pas très optimiste. En revanche, je suis convaincue qu'on peut créer des résiliences locales. Moi, je suis convaincue que les gens, et je le vois, même dans des conditions extrêmes, peuvent être solidaires, peuvent se transcender et sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et des résiliences locales auront d'autant plus de chances d'exister qu'on aura mis en place plein de groupes là, de transition, même si parfois ça paraît vain, même si parfois les uns et les autres on a l'impression de vider la mer à la petite cuillère. Et ben tout ce qu'on aura mis en place, le fait que de gens se parlent dans la rue et qu'ils aient une fois, au moins une fois, été à la MAP ensemble, le jour jour où il n'y a plus d'eau, ben, peut-être qu'ils penseront à la petite grand-mère qui n'aura pas d'eau et mettront en place des systèmes de solidarité et auront l'idée des solutions qui existent pour réagir à un monde qui, de toute façon, n'est pas soutenable en l'état actuel des choses.
Les migrants ont de vrais amis à Chandourène.
Rappelez-vous, certains nous prédisaient des vols, des viols et des larcins divers lorsque l'État a installé plusieurs dizaines de migrants au village vacances de Chandourène, à Chantercier, près de Digne. Au contraire, d'autres citoyens les ont accueillis et aidés avec chaleur, comme nos anciens l'avaient fait pour les Italiens fuyant le fascisme, les Espagnols chassés par Franco ou encore les boat people des années 70 et 80. La tradition d'accueil de la France n'est pas une phobie, c'est l'honneur du pays des droits de l'homme. Dans les Alpes du Sud, les mouvements de solidarité ont été nombreux envers ceux que la misère ou les guerres chassent de leur pays, à l'image des amis de Chandourène en pays dignois.
De vrais amis pour les migrants.
Les Amis de Chandourène est une association de bénévoles fondée dans un but de solidarité vers les migrants hébergés à Chantercier, près de Digne. Un an déjà que tous se mobilisent et presque à temps plein pour certains, pour faciliter la vie des migrants de Chandourène. Accueil, activités diverses, sportives, culturelles, mais aussi dons de vêtements, cours de français ou de mathématiques, propositions de sortie, etc. Les bénévoles n'en ont pas terminé d'apporter chaque jour leur aide et leur investissement dans de nombreux domaines envers les accueillis de Chandourène, ce village vacances situé à Chantercier. Un atelier de réparation de vélos avec récupération et remise en état de vieilles bicyclettes a également vu le jour pour favoriser les déplacements des personnes les plus démunies. Je vous propose d'écouter au micro d'Odile Frison, la présidente et la trésorière de l'association Les Amis de Chandourène, Béatrice Hudson et Mireille Cullary.
Les Amis de Chandourène est une jeune association qui est sans aucune vocation politique, qui réunit des bénévoles pour répondre aux besoins urgents que des services publics ne peuvent pas prendre en charge. On va parler de l'amitié, de l'accueil en famille, des invitations, des protections pour certains qui viennent dans les familles, des vêtements et des chaussures, un vestiaire grâce au Secours Populaire qui nous aide à le fournir, car ils n'arrivent sans rien en général, avec un petit sac à dos, pas un vêtement chaud. Les amis aussi essayent de renouer des liens sociaux en les emmenant dans des concerts, théâtre, cinéma, débats et des sorties sportives comme des randonnées, le foot, le rugby, un peu de savoir s'il en est, des cours de français, des cours d'expression écrite et artistique comme la gravure. Nous avons fait dernièrement une exposition à Digne.
C'était dans le cadre de Regards Migrants, oui. À la médiathèque, mais pas seulement, aussi à l'Atrium.
À l'Atrium et aussi à la galerie de Lubac. Les deux graveurs qui sont occupés principalement de cette exposition sont Cécile Nicolino et Pierre Laroche. Notre association aussi a pour vocation d'accompagner les résidents de Chandourène en premier, c'est de là qu'est partie l'association, dans leur vie quotidienne et dans leurs démarches administratives qui sont très longues et très fastidieuses, tout en français, avec un parcours très compliqué, la préfecture, l'OFI, l'OFPRA, la CNDA. Et plus largement, notre association accompagne tout migrant, demandeur d'asile ou réfugié. Nous n'intervenons qu'en complément des travailleurs sociaux de Chandourène et avec leur accord, nous ne sommes pas là pour leur prendre leur travail ni pour marcher sur leur plate-bande.
Il y a des adhérents, tout le monde peut venir en aide à l'association. Vous avez parlé tout à l'heure de l'exposition, une exposition qui a attiré beaucoup de monde et qui a permis de vendre des gravures réalisées par les migrants eux-mêmes et qui vous a permis quoi ?
De financer nos actions, de par exemple, on achète de la nourriture pour les ceux qui sont partis à Vitrolles. Nous avons acheté des bonnets, des chaussettes, des vêtements chauds, des sous-vêtements, accompagnés à l'OFPRA.
C'est quoi l'OFPRA ?
L'OFPRA, c'est là où ils font leur récit de demandeurs d'asile. Et c'est à Paris. Toutes ces démarches se font à Paris, sauf l'OFI qui est à Marseille.
Vous parliez d'aide juridique aussi. Il y a une rencontre avec des avocats.
Oui, quand ils n'ont plus, quand ce sont des recours et qu'ils ne sont plus aidés par le CAO, ils doivent prendre un avocat, se défendre pour faire un recours, prendre un avocat, demander l'aide juridique, mais c'est pas sûr qu'il l'ait. Donc, quand vraiment ils sont dans un grand besoin, on peut demander conseil à des avocats et payer avec l'association, avec les dons de l'association.
On parlait de cours de français, évidemment, c'est très important, mais il n'y a pas que des cours de français. Par exemple, des cours de mathématiques et d'autres choses.
Mais il y avait, oui, certaines personnes avaient donné des cours de mathématiques, c'était à la demande, par exemple, d'un jeune homme. Il y en a d'autres qui parlaient un petit peu mieux français et qui voulaient des cours d'anglais. Donc tout ça, ça peut être, c'est en fonction de leur demande aussi, hein, voilà, on est adapté. Et puis, chacun fait ce qu'il peut faire dans ses capacités, dans sa...
Donc on peut adhérer à l'association et on peut apporter son aide aussi physique, proposer des activités. Quelles sont les aides?
Parfois c'est pour une sortie, on a besoin de faire des trajets, des rotations en voiture pour pouvoir aller les chercher, pour pouvoir aller chercher le maximum. Voilà, donc ça c'est bien aussi quand il y a plusieurs personnes. C'est aussi des moments où on peut discuter, on est posé, ou des moments de joie quand même.
Nous signaler aussi quand il y a des manifestations, des concerts, le dire à nous, à l'association, pour pouvoir organiser ces transports. Peut-être aussi demander qu'il y ait quelques places gratuites réservées pour eux.
Bon, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles pour l'aide que vous apportez?
Les bonnes nouvelles, on les récolte avec leur sourire, comme tout à l'heure, leur témoignage. Bon, quelques-uns qui avancent quand même. On a un exemple de quelqu'un qui est installé à Digne, qui a son appartement, qui a une formation, mais pour l'instant, c'est un exemple unique et on aimerait faire avancer les autres et aussi dire qu'ils s'ennuient beaucoup, qu'ils sont là depuis un an, qu'ils espéraient que ça aille beaucoup plus vite et que l'ennui et la solitude les ronge quand même et que de plus en plus ça devient difficile. Les cours, bon, ils viennent aux cours mais c'est très fluctuant, ils n'en ressentent pas tous le besoin parce qu'ils voient que leur situation stagne.
Pour vous, c'est pas trop difficile de ne pas perdre espoir devant ces choses qui avancent si lentement?
Un petit peu, oui, ouais, quand même.
Ouais, si. Ouais, surtout quand on est proche de certains, que voilà, qu'on a créé des liens forts, quand il se passe quelque chose, ou dans leur pays, ou dans leur famille, enfin quelque chose qui les concerne de près ou de loin, forcément, ils partagent avec nous, ce qui n'était pas évident au début, et ils le font petit à petit avec la confiance qui s'installe, et on sent que c'est quelque chose d'important, ce qu'on reçoit nous. Parfois, c'est difficile. Hein. Les témoignages, certaines choses, oui. Quand ils commencent à vraiment se poser et à parler, c'est souvent au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, hein, de leur trajet. Hein, parce que quand on les voit, ils sont avec nous très souriants, très gentils, aucune haine, aucune violence. Ils sont vraiment...
confiants. Et cette confiance qui, parfois, nous fait peur parce qu'on sait que ça ne va pas aller pour tous au bout du chemin. Hein, on sait que la réussite est entre 12 et 13% et que on va en voir tomber et on va en voir repartir. Et ça, c'est vrai qu'on ne le prend pas très bien et qu'on a des moment de découragement aussi. Ouais.
Un numéro de téléphone, on peut toujours donc adhérer à l'association.
Les Amis de Chandouraine, 06 83 38 95 40.
AGAP, le Fabalp, est une institution.
Ce laboratoire d'innovation technologique et économique favorise le do-it-yourself, une dynamique placée sous le signe de l'audace et du partage entre les participants. Il n'en fallait pas plus pour que notre collègue Lily leur rende visite pour évoquer leurs actions, mais aussi l'économie circulaire.
Le Fabalp assure des créations numériques pour tous à Gap.
C'est d'abord un laboratoire d'innovation économique du territoire où les professionnels peuvent affiner des idées, des objets et tester ou améliorer des prototypes. Ils y trouvent une aide sur la conception de leurs produits, mais aussi le Fablab joue le rôle d'un espace de prototypage rapide basé sur une méthodologie d'essai-erreur pour affiner les produits. C'est aussi une fabrique de biens communs, Les utilisateurs sont incités, mais pas obligés, à publier les plans de leurs objets sous licence libre, c'est-à-dire à les rendre réutilisables, modifiables, améliorables par d'autres personnes à Gap ou dans n'importe quel Fab Lab du monde. Et puis c'est encore un espace pour la récupération et la réparation des pièces cassées. Il permet de détourner un objet de son utilité première pour une démarche artistique, par exemple, comme refondre du plastique pour le réutiliser dans l'imprimante 3D. La notion d'économie circulaire est bien présente dans le projet. Récupérer les déchets de certains pour en faire la matière première de nouveaux objets. C'est enfin un lieu de développement culturel, d'empowerment, faire soi-même plutôt que d'acheter du tout fait, comprendre comment fonctionnent les objets, les machines, les ordinateurs. Le Fab Lab s'inscrit à 100% dans le courant Do It Yourself. Au micro de Lily, Sylvain Roux, président de FabAlp, présente ce lieu de création.
Nous sommes en compagnie de Sylvain Roux du FabAlp. Sylvain, je vous laisse vous présenter.
Donc bonjour, donc je suis Sylvain Roux, président de l'association FabAlp, voilà, qui est une association basée sur Gap, rue Olphe-Gaillard, une petite rue du centre-ville. Et donc notre association est un Fab Lab, un lieu de fabrication numérique. Dans ce lieu, en fait, il y a diverses machines qui vont vous permettre d'imaginer, de réparer ou de fabriquer simplement avec des imprimantes 3D, des coupeuses laser. On a une machine à commande numérique, là, une fraiseuse. On a aussi une découpeuse de vinyle et par exemple une brodeuse. Donc on a plein de machines diverses et variées pour venir imaginer des objets, réparer des objets.
Alors en quoi ça consiste l'imprimante 3D? Qu'est-ce qu'on peut imprimer? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors l'imprimante 3D, c'est l'objet emblématique de nos associations, du moins les Fab Labs. Cette machine, en fait, elle coule du plastique en se déplaçant sur un plateau, et donc on peut à peu près tout imaginer avec cette machine, on peut quasi tout faire. On peut imprimer des pièces dans d'autres pièces sans qu'elles se touchent, donc elles peuvent bouger après la fin de l'impression. C'est vraiment une machine extrêmement emblématique. Par contre, ça n'est pas la machine qu'on utilise le plus, hein, puisque nous, ça fait 2 ans qu'on est ouvert maintenant, là, au Fab Lab. Et on s'est rendu compte que c'est notre découpeuse laser, en fait, qui sert le plus. Cette découpeuse laser, elle peut graver, découper du bois. En fait, elle peut découper tout ce qui est tendre. On ne peut pas découper, par exemple, de l'acier ou graver de l'acier ou du cuivre ou ainsi de suite. Mais on peut découper du bois, carton, papier, tissu. Et en fait, ça donne un champ de travaux différents qui est vraiment très, très grand. Donc c'est elle, la découpeuse laser, qui est vraiment l'objet de tous les désirs de notre Fab Lab.
Et vous avez toutes sortes de publics, du coup, qui viennent utiliser ces machines?
Alors oui, on a vraiment tout type de public, aussi bien les particuliers, qui viennent typiquement, là en ce moment il y a quelqu'un qui vient fabriquer des maquettes avec notre découpeuse laser. On a aussi des professionnels qui viennent graver ou découper des choses. On a là dernièrement, il y a une personne qui est venue faire des étiquettes avec notre brodeuse. On a fait des autocollants pour une voiture de course. C'est vraiment tous les publics sont représentés. Et en plus, nous au sein du Fab Lab, on a aussi des missions de médiation numérique. Donc en fait, on va vers le public scolaire, des plus petits, puisque l'année dernière on avait eu des CE1, CE2, jusqu'aux plus grands, hein, puisqu'on a fait des ateliers de graphes et de découpage laser avec des plus grands, hein, des secondes et des premières. Donc on arrive à faire et à toucher le maximum de public possible, aussi bien dans de la médiation que du travail, on va dire, plus professionnel.
Et pour ce faire, donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs participants, on va dire, au Fab Lab, quels sont-ils?
Alors oui, on est plusieurs utilisateurs, on va dire, à manager l'utilisation du Fab Lab. On est une dizaine, en fait, à savoir utiliser les machines. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, quand une personne vient au Fab Lab et ne sait pas se servir de machine, mais en fait, c'est l'un de nous qui formons cette personne, puisque l'idée du Fab Lab, en fait, c'est que nous formions les gens pour fabriquer, pour que eux fabriquent leurs pièces. Nous, on n'est pas un magasin qui fabriquons les pièces pour les gens. En fait, on est là pour aider les gens à fabriquer par eux-mêmes. C'est ça la partie de médiation. Donc on essaye vraiment de les aider, du moins c'est pas qu'on essaye vraiment, c'est qu'on le fait en réalité, et donc les gens viennent après utiliser les machines seuls. Voilà, on est quand même ici, on est quand même dans les locaux pour permettre s'il y a un problème ou quoi que ce soit, mais en général les personnes viennent utiliser seules les machines en finalité.
Oui, ils deviennent autonomes en fait.
L'idée, en fait, c'est de rendre l'autonomie dans la petite industrie, parce que ces machines sont des machines industrielles de petite taille, et donc c'est de ramener cette industrie auprès des gens et qu'ils n'en aient pas peur, en fait, que ce soit pas quelque chose de totalement inaccessible pour eux. En fait, on fait tout en sorte pour que eux puissent les utiliser sans problème, en toute sécurité.
Et il y a une petite adhésion, je crois, à l'année.
L'idée, c'est que quand même, on doit rentrer des sous dans notre asso pour payer le loyer et ainsi de suite. Donc en fait, l'adhésion est de 5 euros. Et derrière ça, en fait, les gens payent autant de machines utilisées. Si vous utilisez une heure de machine, ça vous coûtera 20 euros. Mais si vous êtes un gros consommateur, vous pouvez prendre des packs qui, eux, font réduire le coût de l'utilisation de la machine, bien sûr.
Pour rappeler vos coordonnées ?
Alors oui, alors déjà la rue, donc rue Olphe-Gaillard, donc c'est une petite rue qui est juste au-dessus de la rue de la place de la République, à côté de l'association Mobilidé, là, pas très loin, juste au-dessus. Voilà, donc notre site internet c'est fabalp.org, et c'est surtout là où vous trouverez les heures d'ouverture, puisque à l'heure actuelle il n'y a que des bénévoles qui ouvrent le Fabalp, et donc on a des fois un peu du mal à garder des heures d'ouverture constantes. Peut-être que ça va changer dans l'année, on n'en sait pas encore si on peut salarier quelqu'un. Mais donc je vous conseille d'aller sur notre site internet pour bien regarder les heures d'ouverture des locaux.
Sébastien Loeb a couru sur les routes de Haute-Provence.
L'immense champion avait annoncé sa participation au rallye de Haute-Provence et il était au rendez-vous. Rallye plaisir pour lui et la ferveur populaire autour du pilote. Disponible et avenant, Loeb s'est vraiment fait plaisir sur nos routes. Avec classe, est-il nécessaire de le préciser. Je vous propose de retrouver l'as du volant dans une interview classique de ma part et bien plus technique grâce à notre ami Roland Gassin. La 29e édition du rallye de Haute-Provence en mars 2017 a porté la marque Loeb.
Rallye de Haute-Provence, l'effet Sébastien Loeb.
Sa présence a enflammé la 29e édition du Rallye de Haute-Provence et chacun a pu mesurer l'effet Loeb. Des milliers de spectateurs le long des routes et sur les parcs fermés, le meilleur pilote du monde a électrisé la belle organisation de la famille Pochon. Cette édition fera date. Mais ce qui nous a frappé en côtoyant le grand champion, c'est sa simplicité et sa disponibilité. Posant pour des selfies, dédicaçant à tour de bras et partageant sa passion pour le sport automobile, Loeb a conquis le public manosquin. Accueilli par l'organisation et la municipalité vendredi soir, le super champion l'a été aussi par Harry Vatanen et son fils Max, deux basalpins de cœur venus en voisins et amis. Présent également son magnifique complice Daniel Elena qui lui s'est aligné en VHC, une rencontre inoubliable des as du volant, salle Osco Manosco. Alors côté les plusieurs fois vainqueurs des précédentes éditions, Eric Fanguière et Gilles Brignol, Fanguière qui s'inclinera devant Loeb de 33 secondes 6 dixièmes après une belle bagarre et qui déclarait son plaisir et l'honneur de courir avec le phénomène Loeb. Ainsi Sébastien Loeb et son épouse Séverine ont accroché un trophée certes moins prestigieux que d'autres à leur palmarès, mais ils auront fait vivre de belles heures à des passionnés qui n'ont pas encore réalisé ce qui leur est arrivé. Je vous propose d'écouter Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde et vainqueur éblouissant du 29e rallye de Haute-Provence sur sa Peugeot 306 Maxi. Notre ami Roland Gassin, grand amateur de sport mécanique, se joint à moi pour des questions techniques. Merci Roland. Sébastien Loeb en pleine séance de dédicace lors de son week-end gagnant dans le 04.
Sébastien Loeb, les raisons de votre présence sur ce rallye?
Les raisons, c'est que j'ai toujours été passionné par le rallye, même si aujourd'hui je fais d'autres disciplines avec le rallye cross, le rallye raid, mais le rallye, les sensations qu'on a en rallye, c'est quand même quelque chose de vraiment sympa. Donc depuis des années, régulièrement, on fait un rallye ou deux avec ma femme et puis j'ai maintenant une 306 Maxi qui est une voiture que j'ai toujours adorée à l'époque et j'avais jamais eu l'occasion de l'essayer, j'ai jamais eu l'occasion de faire un rallye avec et puis donc j'avais envie de rouler en début de saison, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait coller avec mes dates et ce rallye tombait plutôt bien, en plus dans une région justement un type de route que j'apprécie beaucoup donc voilà, c'était l'occasion de venir participer à cette course.
C'est le rallye plaisir quoi.
Ah bah oui, c'est le rallye plaisir, on est là pour s'amuser, pour passer un bon week-end, se faire plaisir dans une voiture nouvelle dans laquelle je pense qu'il y a pas mal de sensations. C'est sûr que c'est pas une double versée, c'est pas l'efficacité des voitures que j'ai eu l'habitude de conduire ces dernières années, mais c'est une voiture dans laquelle on a vraiment des bonnes sensations, donc un week-end plaisir. Ouais.
Harry Vatanen le disait, ça apporte une notoriété extraordinaire à ce rallye, et en même temps, vous vous rendez compte de l'impact que ça a sur les amateurs qui sont à côté de vous?
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est, comme il dit, le rallye, c'est quand même à peu près la seule discipline dans laquelle les débutants côtoient les champions, et donc c'est vrai que c'est une ambiance toujours particulière et sympa, qui permet de rencontrer les gens, de passer de bons moments, et de discuter. C'est un sport populaire, assez... Tout est ouvert, donc c'est vrai que c'est toujours sympa de partager des moments comme ça.
Et puis Daniel Elena est également présent, il sera sur les véhicules historiques, lui.
Ouais, bah oui, il est vieillissant. Hein. Non, mais ça fait quelques années qu'il participe au Monte Carlo historique sur des voitures un peu plus anciennes, et puis il est venu se faire plaisir ici.
Vous avez fait les reconnaissances cet après-midi, qu'est-ce que vous pensez du circuit?
Bah, je trouve que c'est des routes vraiment sympas, c'est vrai que c'est des routes avec des passages techniques, des passages rapides, des endroits un peu bosselés, des endroits vraiment pas évidents, donc voilà, je pense que c'est un rallye sur lequel il y a moyen vraiment de se faire plaisir.
Quand vous n'êtes pas en rallye, vous avez peur sur la route?
Non.
Bernard Diguet, le premier adjoint de la ville de Manosque, le disait, et c'est un pilote également passionné de sport automobile. Vous avez tous vos points?
Ouais, bah oui. Pourquoi pas?
On vous souhaite une excellente course et puis on espère vous revoir peut-être pour la 30e édition.
Bah écoutez, on est déjà à la 29e. Pour la suite, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de projet pour le futur, mais pourquoi pas?
Je voulais savoir, Sébastien, une discussion un peu plus technique. Est-ce que quand vous avez pris votre voiture chez Vaison, il y a eu besoin d'un gros setup à faire pour arriver au niveau de l'usine?
On n'est pas au niveau de l'usine, on est plutôt sur une voiture de chez Vaison pour l'instant, mais qui était très bien. En fait, je l'ai prise comme ça. C'est une voiture un peu ancienne. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de pièces pour faire du setup et tout, donc on l'a prise comme elle était. Elle marchait bien. On a fait refaire le moteur, etc., pour qu'elle soit aussi neuve que possible. Donc là, elle est bien. J'ai roulé avec, c'était super. Donc maintenant, à voir. Les réglages ne sont pas encore très affinés, mais pour se faire plaisir, c'est pas mal.
Qu'est-ce que vous avez comme possibilité de réglage sur une voiture? D'euromotrice, atmosphérique
On va dire que le moteur, de toute façon, on n'y touche pas. Hein. Il est comme il est. Après, d'euromotrice, oui. Après, les réglages, c'est souvent ce qui est suspension, équilibre. Donc, on peut jouer sur les barres anti-roulis, sur les hauteurs de caisse, sur les duretés de ressort. Grosso modo, ça s'arrête un petit peu là. Hein. Mais justement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de ressorts à changer. Donc on va voir. On va rouler un petit peu avec ce qu'il y a. On va voir comment ça se passe et si on peut affiner un peu.
Et en règle générale, dans votre travail, quelle est votre méthode pour communiquer avec les ingénieurs?
Comment ça se passe globalement? Souvent, on va dire que quand on travaille, on va dire pour un constructeur comme je l'ai fait avec Citroën, etc., ou comme je le fais aujourd'hui avec Peugeot, généralement, on fait après une course, on va faire un débriefing suivant les points forts, les points faibles. On va savoir quelle voie il faut optimiser, quelle voie il faut travailler. Les ingénieurs, pendant le temps derrière, vont travailler sur ces choses-là. Si c'est les amortisseurs ou l'équilibre de la voiture, ils vont réfléchir à tout ça. Ils vont nous proposer des solutions que le pilote essaye en séance d'essai, et puis valide ou non entre le feeling du pilote, ce qu'on voit aussi au data quand on analyse les données, et puis on se fait une idée de tout ça et on essaie de choisir la meilleure solution.
Votre premier ressenti au volant de la 306?
Alors, c'était sympa. C'est pas amorti comme une WRC, c'est pas la puissance d'une WRC non plus, mais c'est une voiture vraiment vivante. Moi, ce que j'ai toujours adoré, c'est les régimes que ça prend 9500 tours, voire plus. C'est vivant comme voiture, c'est quand on attaque, on a vraiment l'impression d'attaquer. Alors, ça va sûrement pas aussi vite qu'une WRC, ça c'est clair, mais les sensations dedans sont vraiment sympas. Puis ça vit, quoi. Il y a de l'ambiance, quoi.
À l'époque, je me souviens, c'est vous Panizzi ou Delecourt qui avait dit, il y a un train avant et le train arrière, on essaye de l'oublier.
Ouais.
Vous retrouvez ça?
J'ai pas assez roulé avec, je vous dirai ça à la fin du rallye, mais en tout cas, j'ai trouvé que pour une traction avant qui a maintenant 20 ans, hein, quasiment, 20 ans, j'ai trouvé que c'était plutôt bien équilibré et qu'il y a sûrement moyen de faire des choses sympas avec.
Demain, on continue la rétro ?
On continue la rétro 2017 avec du sport également. Un grand événement l'année dernière dans les Alpes du Sud, c'était bien sûr le Tour de France à Briançon et à Serre-Chevalier. Nous y reviendrons. On parlera également du Café des Aidants à Gap, d'une opération sécurité collège au collège à Castellane, et puis l'interview de ce reporter syrien que nous exposons actuellement à la radio, Louaï Barakat, qui a fait des photos magnifiques et terribles du siège d'Alep et qui sont toujours visibles jusqu'au 31 janvier dans nos studios ici à Manosque. Rendez-vous demain pour la suite de la rétrospective 2017 sur notre antenne. Merci Evan, bonne journée à tous, à demain.
Merci François, une bonne journée à tous. Au revoir.